7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Quel plaisir de vous retrouver ce matin en direct à l'antenne après quelques jours d'absence. Aujourd'hui, on va parler des fratries, quand les aînés doivent s'occuper des petits frères et sœurs. C'est le cas dans de nombreuses familles où il faut aller chercher son petit frère à l'école, aider la petite sœur à faire ses devoirs, préparer le goûter, les accompagner au sport. Les aînés ont souvent plus de responsabilités que les autres membres de la fratrie. Alors comment vivent-ils ce poids sur leurs épaules d'enfants, jusqu'à quel point aussi les parents peuvent exiger d'un enfant d'être un adulte comme les autres. Nous allons en discuter avec nos invités. Gaëlle Henri Panabière, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes sociologue de la famille et de l'école à l'Université Paris-Descartes et vous avez copublié un article sur la fratrie comme ressource, le rôle des aînés dans les parcours scolaires des enfants de familles nombreuses. Et vous êtes à Lyon en liaison avec nous grâce aux moyens techniques de France Bleu Auvergne-Rhône-Alpes que nous remercions. Clémence Promsy est également avec nous. Bonjour Clémence Promsy.
Bonjour.
Vous êtes psychologue, clinicienne, cofondatrice de Kids et Family. C'est un service de coaching familiale basée en région parisienne. On entendra également le point de vue d'une psychologue chercheuse sénégalaise à Dakar, Ismaane Soukaina Diop. Et quant à vous, les voisins et les voisines, on attend bien sûr vos témoignages, quelle que soit votre place dans la fratrie, que vous soyez grand frère, petite sœur, vous nous appelez surtout dès maintenant, n'attendez pas la fin de l'émission, 33 1 84 22 71 71, c'est aussi un numéro de téléphone WhatsApp sur lequel vous pouvez poster des messages écrit. Je vous lis quelques messages postés sur nos réseaux sociaux. Bien évidemment, vous pouvez les commenter. Clémence Promsy et Gaëlle Henri Panabière. Minette, qui est à Brazzaville, au Congo Brazzaville, est l'aînée d'une fratrie de 6 enfants. Elle dit « Moi, j'adore m'occuper de mes frères et sœurs. Je suis un exemple pour eux. Ça me plaît. Dès qu'il y a un problème avec eux, d'ailleurs, c'est à moi que mes parents font appel pour trancher. » Voilà, le super pouvoir des aînés. Souleymane au Burkina Faso nous dit « Moi, ma maman a eu 10 enfants, 8 garçons, 2 filles. Je suis le 6e. Mes sœurs se sont très bien occupées de moi. Elles étaient souvent contraintes de me donner mon bain, de laver mes habits. Mes frères continuent toujours à prendre grand soin de moi. » Donc, il a vraiment été choyé, hein, Souleymane. « Maintenant que je suis à l'université, et ils ne m'ont jamais considéré comme un fardeau, loin de là. » Bon, il faudrait aussi interroger peut-être les grandes sœurs hein, qui ont lavé les vêtements. Ronnie à Lubumbashi, en République démocratique du Congo, nous dit qu'elle est la 7e d'une famille de 8 enfants. Les aînés s'occupaient de nous. Nos parents étaient séparés. Mon père est allé refaire sa vie. Ma mère n'était quasiment jamais là. Et ce sont les plus grands qui m'ont élevée, qui me corrigeaient quand je faisais des bêtises. Et aujourd'hui, je fais encore appel à eux quand j'ai un problème. Aminata est à Dakar, au Sénégal. Alors elle dit, c'est surtout pour les Benjamins que c'est un calvaire. Les aînés se croient tout permis. Après, c'est vrai qu'ils ont aussi plus de pression des parents. Vous êtes d'accord avec ça, parfois, sur cette pression et puis sur les Benjamins qui, parfois, en ont aussi un peu marre de cette autorité usurpée, Clémence Promsy?
Ah oui, alors ce que je crois surtout entendre dans ce témoignage, c'est qu'il n'a peut-être pas très bien supporté la nature de l'éducation qu'il a reçue, que ça vienne d'un grand frère, d'une grande sœur ou d'un papa ou d'une maman. Peut-être que cette autorité était un peu trop raide pour lui et qu'il y a vu qu'une contrainte et qu'il avait envie de destituer ce chef vu que ce n'était pas le chef d'origine.
C'est ça. Appelez-nous en tout cas les voisins et les voisines au 33 1 84 22 71 71 et bien sûr vous nous suivez aussi en direct sur Twitter.
7 milliards de voisins, de voisines, 7 milliards d'êtres humains, tous identiques, tous différents, appelés à vivre sur une toute petite planète, 7 milliards de frères et de sœurs.
Et ben voilà, tout est dit, presque. Pour recueillir des témoignages d'enfants, notre reporter s'est heurté à de nombreux refus de la part des parents qui craignaient d'être jugés, stigmatisés comme mauvais parents. Ibrahim, 14 ans, a fini par accepter, avec l'accord bien sûr de ses parents. Inès Edel Garcia l'a suivi dans ses responsabilités quotidiennes d'aînés.
Et donc là, on va chercher
mon petit frère, Abdoulaye, à la maternelle.
C'est loin d'ici ?
5 minutes.
Ok, bon, on y va ? Et donc ça, c'est un trajet que tu fais combien de fois par semaine environ?
Le mercredi à la fin des cours souvent et le lundi une semaine sur deux.
Et sinon, le reste du temps, qui va chercher Abdoulaye?
C'est ma mère ou mon beau-père, ça dépend.
Et tes autres petits frères?
Eux, ils viennent tout seuls parce qu'ils s'attendent et ils rentrent parce qu'ils sont un peu plus autonomes. Et ils sont à deux, en fait.
Là, on arrive devant l'école maternelle?
Oui, c'est pas encore ouvert.
T'es le plus jeune?
Oui.
Donc là, on rentre dans l'école maternelle d'Abdoulaye,
oui. C'est ça?
Parce que les enfants n'ont pas le droit de sortir tout seuls.
Non.
Bonjour, Abdoulaye.
Tiens, mets ton bras. T'as fait la chorale?
Oui.
Une fois qu'Ibrahim est passé à la maternelle, direction la maison, où ses autres frères l'attendent pour le déjeuner.
La porte est ouverte.
Tu me présentes tes frères?
Amadou, c'est le deuxième, celui qui est juste après moi. Il a 10 ans. Et il y a Djibril qui a 8 ans. Et ensuite, il y a Abdoulaye qui a 5 ans qu'on est parti chercher.
Et donc là, vous jouez aux jeux vidéo, c'est ça?
Ils jouent en attendant le repas.
Et du coup, depuis quel âge à peu près tu t'occupes de tes frères?
En CM2, c'était plus, j'allais juste les chercher. Mais après, ça a commencé à devenir un peu plus sérieux quand je suis passé en 5e.
Ça veut dire quoi, devenir plus sérieux?
Je commençais à les chercher plus souvent. Souvent, je joue avec eux ou je les surveille. Je fais attention aux petits. C'est moi, je prépare à manger.
C'est toi qui prépares le plat ou tu fais réchauffer des choses?
Non,
que...
c'est réchauffer plutôt. Ma mère le fait à l'avance.
Et alors, on l'a vu à la sortie de l'école maternelle d'Abdoulaye, il y avait beaucoup d'adultes. Oui. Toi, qu'est-ce que ça te fait d'être le seul jeune au milieu de tous ces adultes?
Des fois, je ne suis pas le seul parce que, par exemple, là, j'ai mon voisin qui va aussi chercher sa petite sœur qui est dans la classe d'Abdoulaye. Donc, des fois, je le rencontre et on fait le chemin ensemble.
Qu'est-ce que tu ressens, toi, à t'occuper de tes frères?
C'est un rôle qui est important. C'est nous qui devons les protéger, vu que c'est les plus petits.
Ils t'écoutent, ils te respectent ou ils te prennent pas au sérieux parce que t'es leur frère?
Ça dépend des fois. Des fois, on est fiers et des fois, ça nous énerve un peu. Et après, mes parents, ils leur disent de me respecter parce que je suis le grand, donc après, ils le font.
C'est quoi le menu de ce midi, du coup?
C'est des pâtes avec de la sauce.
L'année prochaine, tu seras au lycée.
Oui.
T'auras moins le temps de t'occuper de tes frères. Comment vous allez vous organiser?
Je pense que vu que le second, il sera en sixième, je pense que c'est lui qui prendra le relais un peu.
Mamadou, du coup, l'année prochaine, c'est toi qui vas t'occuper un peu plus de tes autres frères. Comment t'envisages ce nouveau rôle?
Des fois, j'accompagne quand même Abdoulaye à l'école. Donc, c'est pareil, mais je serai le grand.
Gaëlle, Henri Panabière, alors qu'est-ce que vous pensez de cette entraide dans cette fratrie qu'on a entendue? 4 enfants, 3 petits frères dont il faut s'occuper, dont les plus jeunes sont à l'école maternelle.
Oui, alors ça s'inscrit dans des constats qu'on a pu faire de notre côté dans l'article auquel faisiez référence. On ne cherchait pas spécifiquement à étudier l'entraide entre frères et sœurs quand on a commencé à faire des entretiens dans une vingtaine de familles.
Oui.
Ce qu'on cherchait à comprendre, c'était surtout les effets de l'agrandissement de la famille sur le parcours scolaire. Parce qu'on sait statistiquement que plus on a un nombre de frères et sœurs élevés, et plus ça peut impacter négativement la scolarité. Et on a pu constater, on a vu un peu par quel type de processus ça pouvait passer, et en parallèle, on a pu constater qu'il existait un certain nombre de ressources qui limitaient ou qui compensaient en fait ces effets de plus grandes difficultés pour les parents à être disponibles, de dégradation des fois des conditions matérielles de vie. On a vu donc que ces ressources existaient, des ressources économiques, des parents qui font appel à des personnes extérieures pour les aider à prendre en charge les enfants, le recours à l'internat privé, enfin ce type d'éléments dans les familles les plus dotées. Et puis dans les milieux, surtout en milieu moins doté économiquement et scolairement,
donc milieu plus populaire, parler simplement.
Ouais. Tout à fait, oui, des parents ouvriers, employés. On a pu constater que l'importance en fait des relations entre frères et sœurs, et notamment le rôle des aînés en termes notamment d'accompagnement scolaire, mais pas seulement. Abdoulaye évoquait aussi l'encadrement, le fait de poser des limites qui peut aussi constituer une forme de relais important.
C'est ça, la famille nombreuse, elle appauvrit forcément matériellement, mathématiquement la famille, mais en même temps, quand les aînés ont ce pouvoir et cette capacité de s'occuper de leurs petits frères et sœurs, ça compense. Ça concerne beaucoup les familles monoparentales, ce rôle des aînés de s'occuper de leurs frères et sœurs.
Ce n'est pas spécialement ce qu'on a pu constater, même s'il y a plusieurs cas de familles recomposées dans les familles qu'on a rencontrées. Mais les disponibilités parentales, elles peuvent être impactées effectivement par une séparation. Hein. Enfin, quand on est un seul parent, c'est plus difficile, bien sûr. Mais il y a d'autres éléments qui peuvent affecter la disponibilité parentale. Les conditions d'emploi jouent beaucoup, hein, quand on est obligé de travailler en horaire décalé, ce genre de choses.
Oui, c'est ça. Et on n'a pas le choix parce qu'on n'a pas Exactement. Forcément les moyens de faire garder ses enfants. Clémence Prompsy, cette entraide au sein de la famille, elle est capitale dans les milieux modestes.
Elle est capitale et je pense qu'effectivement elle peut apporter, on parlait d'appauvrissement, ce qui est vrai, mais aussi d'enrichissement. Je pense que ce jeune garçon semble déjà développer une personnalité forte avec une immense fierté, une grande confiance en lui, tout en assumant pleinement que parfois ça lui casse les pieds,
ouais.
Ce qui est assez sain, c'est-à-dire qu'il est à la fois parentifié, j'ai entendu quand même qu'il y avait un rythme...
Parentifié, hein, c'est ça, c'est ouais. Le cas d'un grand frère qui s'occupe de ses frères et sœurs.
Ouais, et quand on le met dans des responsabilités, là il y a quand même une... Enfin, c'est lourd de dire ça, mais il a une... Il y a une question de vie ou de mort quand même. Il faut faire attention quand on traverse. Il va aller chercher à la maternelle, un petit de 5 ans pour en avoir un. Ça s'enfuit en courant. C'est dur à 14 ans de frôler un accident. C'est très difficile d'avoir une telle responsabilité. Il l'a dit d'ailleurs qu'il fallait faire attention.
D'autant plus dans des sociétés comme la nôtre où on a des professionnels de la petite enfance, des assistantes maternelles, la crèche. Alors la sortie d'école pour les milieux les plus aisés font appel à une personne qui est payée pour ça, pour aller chercher les enfants à la sortie de l'école maternelle, etc. Mmh. Donc, c'est pas le rôle qui est naturellement aujourd'hui dévolu à un enfant de 14 ans dans nos sociétés.
Non.
Mais la réalité, en fait, c'est que oui, elle est très, très fréquemment, c'est le cas.
Oui, alors non seulement ça peut, et en plus, je trouve ça assez super hein, de pouvoir en bénéficier. Effectivement, l'inverse de la parentification, c'est le parent hélicoptère, c'est la nouvelle expression. Ce sont les parents qui gèrent tout et qui empêchent chaque enfant de... Au contraire, c'est le fait de totalement les déresponsabiliser de tout. Je pense que tout dans la vie est important, c'est de trouver la bonne mesure. En
Exactement.
Fait. Un peu d'équilibre.
Voilà. Quand la fratrie s'organise, que les aînés prennent le relais des parents, vous le dites, c'est pas une mauvaise chose. Hein. Il faut savoir dans quelle limite, il faut bien doser. Dites-nous comment vous vivez cette situation ou comment vous avez vécu cette situation, si vous avez été aîné ou au contraire, Benjamin, sous le joug du pouvoir des grands frères et des grandes sœurs. Appelez-nous au 33 1 84 22 71 71.
C'est la panique ici, tu verrais ça. Ça court, ça crie, c'est le branle-bas de combat. On t'a cherché partout, grand frère. Dans la forêt près du canal et de la voie ferrée, y'a eu la police, les questions de routine. Est-ce que t'as une petite copine et des mauvaises fréquentations? Es-tu sujet au stress? As-tu lancé des SOS? Et dire qu'on n'a rien vu venir. Cette nuit, je regarde le ciel. Je choisis une étoile, la plus belle de la voûte, pour éclairer ta route et pour guider tes pas. Cette nuit, je regarde le ciel, je choisis une étoile, la plus belle de la voûte, pour éclairer ta route et pour veiller sur toi. Ça fait 6 mois, grand frère, à la maison, au collège, on parle de moins en moins de toi. Combien de fois je t'ai aperçu, près du stade ou de la mairie? J'aurais jamais cru que t'avais autant de sosies. Paraît que plus le temps passe et plus ça craint. Paraît qu'il faut se faire une raison, mais moi je lâche rien parce que je sais ce qui s'est passé. T'as eu besoin de changer d'air, t'as eu besoin de tout quitter. Alors t'as marché, marché jusqu'à l'Atlantique. Et t'es monté dans un bateau qui t'a emmené en Amérique. Alors qu'il est une balade à New York. Mais tu rêves déjà de t'envoler pour le Japon, pour le Maroc. Je serais pas étonné, tu m'en as parlé plusieurs fois. Qu'on t'aperçoive sur un glacier, quelque part en Himalaya. Je t'imagine très bien dans la jungle, en Thaïlande, en Russie, au Bénin ou sur la cordillère des Andes. Mais là où t'es gonflé, et ça fait un peu mal, c'est que t'as même pas encore pensé à m'envoyer une carte postale.
7 milliards de voisins.
Depuis petite, j'ai toujours eu l'habitude de m'occuper des enfants, garder mes frères et sœurs, mes cousins et cousines, des neveux. Et puis je garde aussi des enfants dans l'église dans laquelle je suis. J'en ai une de 14 ans, un de 8 ans, un de 11 ans et une toute dernière de 2 ans. Donc j'ai fait les devoirs, étant donné que je suis plus grand qu'eux, à manger, le bain, je les mets au lit avant que mes parents rentrent, comme ma mère travaille assez tard et mon père aussi. Je pense que ça m'a aidé à être beaucoup plus responsable et beaucoup plus mature que parfois certaines personnes de ma classe actuelle. J'ai toujours été un peu plus mature et pas trop dans le délire entre guillemets des autres. J'ai toujours été un peu décalée. Mais c'est parce que j'avais beaucoup de responsabilités à la maison, donc je ne pensais pas forcément aux mêmes choses, même si je ne m'occupe pas forcément de tout le temps. Et du coup, cette manière d'être, entre guillemets, préparée ou éduquée quand on fait partie d'une famille africaine et d'une grande famille, ça nous prépare aux responsabilités de la vie professionnelle, les responsabilités qu'on peut te donner, même être ponctuel. Parce que, par exemple, je sais que ma mère, si elle rentre à 21h, je les ai couchées depuis 20h30 pour que quand elle rentre, en fait, il n'y ait pas de bruit. Donc la ponctualité, pour savoir que j'ai des heures à laquelle je vais faire certaines choses et si je ne les fais pas, je vais être totalement décalée. Donc ça me prépare à ça, à être responsable, à avoir la conscience des choses importantes, à avoir des priorités en fait. C'est juste en fait un paradoxe en fait, parce qu'on pense qu'on nous prépare à être femme au foyer, mais en vérité on nous prépare à la vie active. Donc en fait ce que les gens pensent qu'on va devenir en étant éduqué de cette manière, mais en fait, c'est tout le contraire, parce qu'en fait, on nous prépare à être hyper actifs, responsables, rigoureux et dans la vie professionnelle. On m'a déjà fait des réflexions en rapport à cette manière dont j'étais plus mature dans ma manière de faire les choses. Même en classe, par exemple, on m'appelle la maman, parce que je ne fais pas forcément les choses comme les autres, et puis j'ai tendance à vouloir surveiller ce que les autres y font, à leur dire de ne pas faire certaines choses. Dans ma classe, ça ne me dérange pas, mais c'est vrai que quand on sort en dehors du contexte scolaire, que ce soit les adultes et tout ça, il y en a beaucoup qui me disent « Oui, amuse-toi comme les autres, pourquoi tu passes ton temps à être avec tes frères et sœurs et tout ?» Mais en fait, c'est pas que j'ai pas envie de m'amuser, c'est que ça me dérange pas en fait d'être avec des enfants tout le temps. J'ai pas forcément envie de m'amuser de la même manière que les autres qui s'amusent, pourtant je m'amuse quand même, je sors et tout, mais j'ai toujours l'arrière-pensée de me dire « Ah, il y a mes frères à la maison, faut pas que je dure quand même dehors. » Je ne pense pas du tout être passée à côté de mon adolescence. Je ne suis pas tout le temps à la maison vu que je suis à l'école. Donc je pense que je m'amuse aussi très bien à l'école, je me distrais et tout ça. Quand je rentre, je m'occupe d'eux, mais à côté de ça, j'ai mon téléphone, les réseaux sociaux. Je passe du temps au téléphone comme toutes les adolescentes. Je sors, je vais au cinéma. Et puis, c'est moi-même en fait, qui, je pense, me pose des limites. Parce que parfois, mes parents peuvent me dire « Ouais, mais pourquoi aujourd'hui tu sors pas? On est le week-end et tout. Enfin, t'as pas d'amis à aller voir et tout. » Je leur dis « Si, j'en ai, mais c'est moi qui aime pas sortir en fait. » Je profite de ma jeunesse à ma manière, du fait de comment j'ai été élevée depuis petite en fait.
7 milliards de voisins. Parce que nous sommes tous des voisins.
Voilà, une lycéenne qu'on appelle la maman en classe, Clémence Promsy, qu'est-ce que ça vous inspire ?
Ce que je trouve super dans ce témoignage, c'est la notion de plaisir en fait qu'elle prend. Et le plaisir, c'est une drogue. Tout le monde, alors il y en a, ils prennent du plaisir aux jeux vidéo. Elle prend du plaisir en étant fière d'elle et en étant responsable. Et elle a l'air de trouver ça dosé. Et elle trouve qu'elle est parfaitement adaptée à son âge avec.
Ouais. Donc la crise d'adolescence, dans ces cas-là, c'est pour plus tard ou jamais ?
C'est pas exclu qu'à 40 ans, elle se dise « Oh mon Dieu, mais je vais mourir, moi aussi, poussez-vous, j'ai oublié de faire 2-3 bêtises. » C'est possible.
Gaëlle Henri Panabière,
oui,
sur la crise d'adolescence qu'on repousse.
En tout cas, ce qu'elle explique par rapport à son rapport à l'autorité, hein, elle explique bien en fait que le fait d'occuper une position d'autorité et de responsabilité vis-à-vis des plus jeunes, ça la conduit à être autocontrainte en fait. Hein. Elle dit « je me donne moi-même mes limites », etc. Donc l'expérience de cette position-là dans la relation d'autorité semble, elle est très réflexive, ouais. elle l'observe assez finement.
C'est sûr
assez
que ça fait grandir, hein, beaucoup voilà, plus vite. Nous accueillons une auditrice au 33 1 84 22 71 71. Fatou est à Abidjan, bonjour.
Bonjour madame.
Fatou, vous avez 40 ans, vous êtes la troisième d'une famille de 7 enfants, donc vous avez du pouvoir sur les frères et sœurs.
Oui, si on peut le dire, mais pas autoritaire quand même. Pas autoritaire.
C'est-à-dire, c'était vraiment du soin, qu'est-ce que vous faisiez pour vos frères et sœurs?
Bon, je m'occupais d'eux comme une mère s'occupe de ses enfants. Je les lavais, je les amenais à l'école, on partait à l'école ensemble. Au retour, puisque la maman était une vendeuse, je m'occupais d'eux, je leur faisais à manger. J'étais à les petits soins.
Ouais.
C'est quelque chose que je faisais avec beaucoup de plaisir d'ailleurs.
C'est ça, parce que votre maman était commerçante, donc vous l'avez complètement remplacée auprès de vos frères et sœurs.
Oui.
Et les deux aînés, alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Puisqu'il y avait deux enfants au-dessus de vous.
Bon, les deux aînés, Oui, elles étaient chez ma grand-mère. Mes deux grandes sœurs étaient chez ma grand-mère.
Ah oui, donc vous avez grandi comme une aînée, comme une grande sœur.
Voilà, voilà, c'est ça.
Vous avez dit au Standard que c'était des moments qui vous manquent terriblement aujourd'hui. Qu'est-ce que vous vouliez dire?
Oui, bon, ces moments de partage, où on se taquinait, je leur faisais à manger, on mettait dans la même assiette, on mangeait ensemble, on se regardait, on bavardait, on rigolait. Franchement, aujourd'hui, ça me manque énormément.
Oui.
C'était à refaire, je reviendrai en enfance et puis je le ferai avec beaucoup de plaisir. Ça me manque.
Vous ne regrettez rien, vous n'avez pas le sentiment qu'il y a du temps libre qui vous a été volé d'une certaine manière, avec moins de responsabilité, non?
Non, rien ne m'a été volé. Au contraire, beaucoup m'a été donné. Parce que j'ai une autre vision de la vie aujourd'hui. Je partage, j'aime aider les gens, les enfants. Rien ne m'a été volé, au contraire. Beaucoup m'a été donné. Ben beaucoup,
c'est une belle formule, Fatou. Hein. Merci, on va se quitter sur cette formule. Et bien sûr, vous pouvez réagir, les voisins et les voisines. Si vous avez beaucoup trimé pour vos frères et sœurs, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Fatou? Rien ne m'a été volé, beaucoup m'a été donné. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. On est en ligne avec la psychologue Isman Soukaina Diop. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes psychologue à Dakar, vous êtes chercheuse à l'université Charanta Diop. Les aînés ont souvent quand même de grosses responsabilités en Afrique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer aujourd'hui encore comment s'organisent les rôles?
Eh bien, en fait, on a différents types de familles. On a toujours des familles qui sont larges, on a également des familles qui sont plutôt de type nucléaire. Et en fonction également du nombre de personnes qui vivent dans le cadre familial et aussi des âges de chacun. Effectivement, les aînés prennent de la place en termes d'aide des parents. C'est-à-dire que les rôles des parents sont parfois reportés sur les aînés. Mmh. Quand les parents sont à l'extérieur du foyer, quand ils travaillent ou quand ils ont des conditions de travail qui ne leur permettent pas d'être disponibles au quotidien pour les enfants en bas âge. Eh bien, en fonction également du niveau socio-économique du couple ou de la famille, parce qu'il y a d'autres référents qui peuvent également remplacer les parents, comme des nounous qui peuvent aider aux soins pour les enfants plus jeunes, ou des précepteurs, des personnes qui peuvent s'occuper du soutien scolaire pour les enfants. Quand ces personnes ne sont pas là ou quand il n'y a pas la possibilité de faire venir ces personnes également, eh bien, c'est souvent le rôle des aînés de pallier à ces manques-là par rapport aux parents.
Et avec l'urbanisation, par exemple, il y a moins de grands-parents disponibles sur place comme il y avait au village?
Eh bien oui, disons que avec le nouveau cadre familial, c'est-à-dire il y a des cadres qui sont différents d'avant où les familles vivent dans des espaces plus urbains où il y a moins la possibilité de vivre en famille élargie, où il y a plus d'activités où les parents travaillent ou sont pris de manière plus active dans la vie économique. Donc effectivement, les grands-parents aussi sont aussi pris dans la vie économique.
On a beaucoup entendu là dans les témoignages quand même beaucoup de choses qui tournent autour de l'autorité. Alors comment est transférée l'autorité par les parents qui disent très clairement aux petits frères et aux petites sœurs, maintenant tu vas obéir à ton grand frère, à ta grande sœur. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est très normé, ou pas spécialement?
Moi, je pense que l'autorité des parents est reportée de manière différente sur un grand frère ou sur une grande sœur, en fonction du sexe du parent. C'est-à-dire, l'autorité masculine est plutôt reportée sur le grand frère, qui va s'occuper de reporter les ordres du parent, du père, tandis que l'autorité féminine est reportée sur le rôle de la grande sœur, c'est-à-dire au niveau des soins, de la gestion. Elle va, par imitation, reporter le rôle de la maman. Mais je ne pense pas qu'il y ait vraiment une situation normée où on détermine un jour que ce soit le grand frère ou la grande sœur qui va s'occuper des enfants ou comment est-ce qu'il faut respecter cette personne. Je pense que c'est un cadre qui est posé d'emblée et qui se reporte et qui se construit avec le temps.
Ouais. Est-ce qu'il y a un risque de grand frère petit chef, de grand frère maltraitant parfois?
Oui, il y a des risques, mais il y a des réglages également.
Par les parents ou pas? Parce que dans les témoignages, beaucoup disent que les parents ne sont pas très présents du coup.
Eh bien, il n'y a pas que les parents, il y a également les personnes du foyer, il y a les personnes qui vivent à côté du foyer, il y a les frères, sœurs qui ne sont pas les frères et sœurs des parents, qui peuvent être d'autres jeunes qui connaissent la famille, qui peuvent être des oncles, des tantes. Il y a les grands-parents également qui font des réglages.
Ouais.
Et donc, autant que la famille compte de personnes, autant ça fait de personnes qui peuvent observer et canaliser. Mmh.
Vous restez en ligne avec nous, hein, Ismaane Soukaina Diop, on a beaucoup d'autres questions à vous poser. Je voudrais vous lire le message de Kayode qui a posté de Cotonou au Bénin, qui a 38 ans, qui est Benjamine, la plus petite d'une fratrie de 7 enfants. Et elle dit, ma grande sœur aînée avait vraiment la responsabilité, elle nous faisait à manger, elle allait nous chercher à l'école, c'était pas facile. J'aurais préféré que ce soit ma mère qui assume, les parents nous manquent. Ismaane Soukaina Diop.
Oui, eh bien écoutez, de mon point de vue, je pense que même si jamais les grands frères et grandes sœurs peuvent assumer temporairement ou alors pour un temps spécifique la charge de parents de leurs frères et sœurs, ce ne sont pas les parents. Et donc forcément, il y a des manques parce que quelque part, les parents sont obligés finalement de s'occuper de leurs enfants, tandis que les frères et sœurs peuvent avoir la situation où ils peuvent dire « on préférait être ailleurs, on préférait aller vivre notre vie, on préférait aller avoir notre propre famille ». Et donc quelque part, il y a souvent une contrainte.
Alors c'est vrai que beaucoup l'ont bien vécu, hein, comme le disait cette auditrice Fatou tout à l'heure, rien ne m'a été volé, tout m'a été donné de m'occuper de mes petits frères et sœurs. On a aussi cette auditrice sur Facebook qui est au Portugal, qui a vraiment joué un rôle de maman. Elle est l'aînée de 3 enfants du côté de ma mère, la cadette de 4 enfants du côté de mon père. Mais du côté de ma mère, j'ai eu une relation fusionnelle avec mon petit frère, je l'aimais presque comme un fils. Qu'est-ce que vous inspire, Clémence Prompsy, des gens qui disent qu'ils ont eu finalement une relation presque parentale avec leur petit frère ou leur petite sœur?
Alors, j'ai envie de dire que tout dépend un peu de l'histoire individuelle de chacun. Tout ce qui compte, c'est que chacun trouve une place, en fait. Et que s'il y a de la souffrance, que ce soit, ça pourrait même être dans les yeux ou dans le cœur de la maman qui est obligée de travailler et qui se sent peut-être dépossédée de son rôle et de sa fonction pour des obligations financières. La souffrance de chacun doit être entendue. Ça me semble essentiel, c'est que chacun puisse faire le point régulièrement, pourquoi pas avant ou après les vacances scolaires, et parce que les enfants grandissent, les ados grandissent.
C'est-à-dire donc, de faire le point avec les parents, sous-entendu.
Avec les 3 générations, j'ai envie de dire. Enfin, le petit enfant, le grand enfant et le parent, pourquoi pas les grands-parents aussi. Mais de dire, voilà, on en est où? C'est vrai que le petit pleure beaucoup, sa maman lui manque beaucoup, ou alors l'ado dit, moi j'en ai ras la casquette, j'ai besoin maintenant d'avoir mes samedis soirs, ou j'ai besoin de faire plus mes devoirs et donc de ne pas aller chercher les 4 à la maternelle. Que sais-je? Je dis n'importe quoi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réalité, il n'y a qu'une réalité. Donc il y a les contraintes des parents qu'il faut entendre, mais il y a aussi les émotions des deux autres. Qu'elles soient dans le plaisir ou dans le déplaisir, chaque réalité doit être un peu revisitée tous les 6-12 mois, parce que tout le monde a grandi, que les réalités de chacun, voilà. Et après on se met d'accord en fait, tous ensemble, on fait un conseil de guerre, on se tape dans la main et on se dit allez, je pense que tout le monde a été entendu, on repart là-dessus, on refait le point dans 3 mois et on voit si tout le monde va bien.
Gaëlle Henri Panabière, alors vous avez travaillé sur l'impact scolaire pour ces fratries nombreuses. Quel est l'impact sur le niveau scolaire pour les aînés qui ont la charge de leurs petits frères et sœurs?
Alors pour les aînés eux-mêmes, on a différents cas de figure. Alors déjà, ce sont souvent des aînés filles. Hein. D'ailleurs, ça se retrouve dans les témoignages qu'on a entendus, à part le cas d'Abdoulaye, par lequel on a commencé. Mais donc c'est, disons que les aînés eux-mêmes peuvent effectivement à la fois bien vivre hein, cette responsabilité au sens où ils ont quelque part intériorisé aussi ce rôle-là, enfin la nécessité de ce rôle-là, ils ne le vivent pas nécessairement comme une contrainte. Je pense au cas d'Émilie qui explique hein, que ses frères et sœurs, c'est aussi ses amis et qu'elle n'a pas forcément besoin de loisirs en dehors de la maison. Voilà, on a
de situation. Est-ce qu'on a justement des loisirs quand on a en même temps la responsabilité avec les mêmes personnes?
Voilà, et effectivement, typiquement pour certains de nos enquêtés, il n'y a pas de distinction entre loisirs individuels et loisirs, le fait d'être avec ses frères et sœurs. Pour le coup, Émilie, elle a beaucoup lu des histoires à ses frères et sœurs, eu ce type de relation avec eux. Et on peut d'ailleurs supposer aussi que cette aide qu'elle pouvait leur procurer, en tout cas cet accompagnement dans la lecture, ou même l'aide aux devoirs qu'elle pouvait leur procurer, lui a aussi en partie bénéficié, hein, puisque c'est aussi l'occasion de mobiliser des compétences scolaires dans cette relation-là. Je pense également à d'autres effets sur les frères et sur les aînés eux-mêmes, du fait d'avoir cette position-là. Je pense en particulier au cas de Nora, qu'on a rencontrée, enfin je vous donne des prénoms qui sont anonymés, hein.
Oui, bien sûr.
Nora, qui explique qu'elle est très tôt apparue comme la référent école dans la famille, et c'est à elle qu'on faisait appel, donc pour accompagner scolairement, pour aller aux rencontres avec les enseignants. Elle a aussi pris en charge l'accompagnement en bibliothèque, la lecture d'histoire le soir, et voilà, c'est une force de reconnaissance symbolique aussi qui va avec ces éléments-là, et c'est quelqu'un qui a très bien réussi scolairement.
Est-ce que ça renforce pas les stéréotypes, ou tout de même, là, on cite beaucoup de filles, hein, parce que les filles aiment l'école, les filles ont de meilleurs résultats scolaires, ça y est, c'est prouvé dans les études maintenant, que les garçons, et du coup, bah, c'est elles qui se tapent les devoirs des petits, et comme elles ont aussi, plus naturellement, leur confère aussi les tâches domestiques, ça fait beaucoup quand même, non ?
Oui, absolument, c'est, on l'observe, hein, même quand il y a des aînés plus âgés et qui sont des garçons, ce sont quand même moins souvent eux qui sont sollicités. Je pense au cas de Marie-Aline, hein, qui prend beaucoup les choses en charge et qui, alors qu'elle a deux aînés garçons, prend énormément de choses en charge et aussi les tâches domestiques, pas seulement l'accompagnement des cadets, beaucoup les soins corporels, etc. Et qui, pour le coup, elle voit aussi ses propres investissements scolaires impactés par cette aide qu'elle fournit à cette aide familiale.
Ouais. Ismaïna Soukaina Diop, sur le poids sur les... Ah, elle n'est plus avec nous, oui, Ismaïna, on la rappelle. Mais du coup, ça veut dire qu'il y a des études ont montré néanmoins que les aînés redoublent moins. Ça vous semble vérifié aujourd'hui ou pas ?
Oui, statistiquement, ça s'observe toujours, hein, cette tendance des aînés à mieux réussir scolairement que les cadets.
Et les plus petits, quand il y a un gros écart d'âge, quand ils sont les derniers, mais qu'il y a, par exemple, 10 ans de différence avec les aînés, on dit aussi que ça, l'écart d'âge profite aux plus petits.
Alors effectivement, on a pu l'observer après, ça dépend des conditions plus générales, mais ça me fait penser à un des cas qu'on a rencontré dans l'étude d'une Benjamine qui a bénéficié en fait d'une amélioration des conditions matérielles avec le départ des aînés qui du coup ont allégé la charge économique sur le foyer, là, mais voilà, aussi un certain nombre de remboursements économiques qu'elle a pu se faire et qui peut bénéficier par exemple de loisirs auxquels ses aînés n'avaient pas accès. L'équitation, voilà, qui est un loisir assez coûteux, du fait que elle occupe cette position de, entre guillemets, petite dernière.
Ouais. Ismaïna Soukaina Diop, on vous a récupéré, vous êtes à Dakar, vous êtes psychologue. La charge qui pèse sur les grandes sœurs aujourd'hui, est-ce que avec le fait qu'elles réussissent bien à l'école, donc on leur confère les devoirs, les tâches domestiques, est-ce qu'aujourd'hui il y a une vraie inégalité sur ce poids-là ?
Moi je dirais que cette inégalité, elle est juste... Elle reflète simplement la réalité sociale normale des femmes que les femmes vivent au quotidien par rapport à la charge qu'elles ont dans le foyer.
Oui, ça veut dire qu'en fait, cette charge, elle commence dès la place dans la fratrie.
Oui, c'est-à-dire qu'elle reflète la réalité que l'on vit au quotidien, c'est-à-dire la charge au niveau scolaire des enfants. C'est vrai que, effectivement, par rapport à la sollicitation sociale, la sollicitation des écoles de voir les pères plus souvent, par rapport à la pression que ça représente au niveau à la fois social, médical, scolaire, les institutions demandent de plus en plus à avoir des pères, à ce que les pères prennent leur place, qu'ils soient présents aussi bien à l'école que dans le cadre sanitaire, que dans le cadre médical. Ouais. Donc les pédiatres demandent à voir les pères. Et ce qui fait que les pères ont tendance à davantage s'impliquer. Et également, la société évolue et les pères veulent aussi impliquer davantage.
Ouais, ce qui n'est pas plus mal, ça décharge un peu la grande sœur, on peut imaginer.
La grande sœur, parce que ça se répercute en miroir également, parce qu'il montre cet exemple aux enfants de sexe masculin qui aussi s'habituent à se projeter dans un rôle de parent qui sera impliqué.
Alors bien sûr, là on parle de la situation à Dakar, hein. Il faudrait évidemment beaucoup nuancer quand on est au village. Jocelyne nous appelle au 33 1 84 22 71 71. Bonjour Jocelyne.
Bonjour.
Vous êtes à Libreville au Gabon. Vous avez été l'aîné, enfin vous êtes toujours l'aîné de 11 enfants. Vous l'avez assez mal vécu.
Oui, je l'ai très mal vécu, comme je le disais, parce que pendant longtemps, j'ai pas eu le choix, en fait. Ma mère, elle a été divorcée, mariée de 5 enfants d'abord. Après, elle s'est remariée et elle a eu une cadence d'enfants, c'est-à-dire que chaque année, parce que son rêve d'enfance était de faire 10 gosses. Donc, moi, j'ai pas eu d'enfance parce qu'il fallait toujours que je m'occupe des enfants et elle était enseignante avec 10 gosses, c'était pas évident. Donc, elle avait 2-3 boulots après, elle donnait des cours, elle faisait des cours particuliers et il fallait toujours que quand elle arrive, que tout soit propre, que tout soit, que j'ai lavé les enfants, que je les ai habillés, et il m'est même privé de les emmener alors que je n'avais que 14 ans en PMI et ça m'avait traumatisée parce que la dame de la PMI m'avait dit, vous n'avez pas honte, une jeune fille comme vous, vous avez déjà eu un bébé. Mais moi, j'avais cette pression parce que je savais que maman, elle était dans une situation financière assez difficile et qu'elle sortait d'un divorce et qu'elle se remettait avec une nouvelle personne. Donc, j'ai pris le relais énormément sur elle et jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire que je suis toujours obligée d'intervenir alors qu'on est tous grands et que je la félicite parce qu'on est tous, on a tous bien réussi. La dernière a 17 ans, elle est en train de passer le bac, elle est en France.
Wow, bravo.
On a toutes des bacs plus 5.
Vous avez fait un travail extraordinaire, mais, Jocelyne.
Oui, mais ça a énormément été lourd et aujourd'hui, quelque part, je regrette pas, mais je me rends compte que je n'ai pas vécu mon enfance et que les gens ne se rendent pas compte que moi aussi je peux être essoufflée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on s'attend toujours à ce que je prenne le dessus sur tout.
Oui, c'est le rôle qu'on vous a collé finalement, c'est l'étiquette qu'on vous a collée dès l'âge de 10-11 ans. Mais Jocelyne, qui vous a dit merci alors dans la famille aujourd'hui? Votre silence est éloquent. Jocelyne, vous êtes toujours en ligne avec nous?
Oui, je suis en ligne avec vous. En fait, personne. Personne m'a dit merci.
Ou bravo.
Mais maman, je l'apprends. Maman m'a jamais dit merci. Mais de temps en temps, mes frères et sœurs disent... elle dit oui, si elle n'avait pas été là. Si... Et d'ailleurs, récemment, elle me l'a encore dit. Elle me dit oui, mais quand je partirai, tu dois prendre le relais. Parce que, parle à ta sœur. J'ai dit, maman, non, là, je suis fatiguée. Je ne peux pas toujours continuer.
Mais cette confiance que tout le monde a en vous, c'est une forme de remerciement d'une certaine façon, même si ce n'est pas formulé comme ça, Jocelyne?
Oui, je crois. Oui. Effectivement.
Mais c'est pas facile de dire merci aussi. Hein.
Mais pourtant, ça devrait l'être.
Ben en tout cas, merci Jocelyne de nous avoir livré votre histoire parce que vous pouvez être fière de vous. Je crois qu'il y a beaucoup d'auditeurs là qui vous écoutent et qui se disent que vous avez accompli des prouesses. Hein. Vous avez été l'aînée de 11 enfants et tout le monde a fait des études. Merci d'avoir été en ligne avec nous, Jocelyne, en direct.
Je vous en prie.
En direct de Libreville. Clémence Prompsy, c'est clair, il y a des cas où c'est une part d'enfance qui disparaît, qui n'existe pas du fait de responsabilités écrasantes, même si certains auditeurs disent qu'ils en ont tiré aussi une richesse. Est-ce que les parents doivent remercier leurs aînés, marquer une reconnaissance à votre avis?
La reconnaissance, c'est le meilleur des salaires, que ce soit dans nos métiers, dans notre couple, en tant que parents. Il n'y a rien de plus réjouissant pour un être humain que d'entendre effectivement qu'il a fait du bon boulot, ou que même si son boulot n'est pas bien fait, il a quand même vachement bien essayé. En tout cas, la souffrance de Jocelyne, là, on l'entend et c'était très touchant, c'est ce manque de reconnaissance. Elle n'a eu aucune reconnaissance, comme si tout ça était normal, alors que pour elle, être l'aînée ou être la numéro 7, c'est pas elle qui a choisi d'avoir ce rôle-là.
Et ça forge une personnalité aussi, hein, oui, avec ça, de très grosses attentes. Dans des familles plus aisées, en France, il y a certains parents qui donnent de l'argent aux aînés pour qu'ils les payent comme babysitter. Hein, ça arrive. Évidemment, pas au tarif d'une professionnelle de la petite enfance, mais vous trouvez que c'est bien ou pas? Que alors, ça se monétise?
Je suis un peu surprise, ça dépend peut-être de l'âge des enfants, je me rends pas compte en fait. Pour moi, tout est bien, rien n'est bien, je n'ai pas vraiment de règles. Ce dont je suis convaincue, c'est que chaque âge a ses plaisirs et ses contraintes et que donc, peut-être à 6 ans, à 12 ans, à 16 ans, on n'a pas les mêmes plaisirs et on n'a pas les mêmes contraintes. On ne peut pas avoir que des contraintes. Peut-être qu'à 16 ans, on a aussi plus de droits et que ça peut être affiché très clairement. Alors, ça peut être de l'argent de poche, mais ça peut être aussi, j'en sais rien, moi, le fait d'avoir un vélo électrique, électrique, un scooter, le droit de sortir, une inscription particulière pour monter à cheval, au foot,
c'est ça,
que sais-je.
Des privilèges pour compenser la responsabilisation très tôt. Allez, on repart au standard dans quelques instants. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71 quand les aînés s'occupent des petits frères et sœurs.
7 milliards de voisins.
Ouais. 7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
On est en ligne avec Achille qui nous appelle de Douala au Cameroun. Bonjour Achille.
Bonjour madame, bonjour voisin.
Achille, alors vous, comment vous avez livré au standard un bilan, j'ai l'impression, quand même assez mitigé. Vous êtes l'aîné d'une fratrie de 4 enfants, 4 filles, 2 garçons, c'est ça?
Oui, de 6.
C'est ça, vous êtes l'aîné de 6. Alors comment vous l'avez vécu?
Oh, ça n'a pas été évident. Ça remonte à très loin. C'est-à-dire que j'ai eu le privilège d'accueillir toute la fratrie, presque toute la fratrie. Donc, je me suis tapé les couches, les premiers devoirs, j'ai biberonné, j'ai bercé. Ça n'a pas été facile. Jusque-là, c'est tranquille. Mais à partir du moment où les frères, les petits frères, les petites sœurs entament leur puberté, oui, ça devient difficile à gérer, d'autant plus que les parents, la culture qu'ils ont eue, ils n'ont pas beaucoup fréquenté, ils avaient du mal à gérer tout ça. Du coup, ça a reposé sur mes épaules. Il fallait négocier les premières menstrues, négocier un certain nombre de choses, nombre d'exigences.
Tout ça, vous étiez en première ligne, les règles des petites sœurs. Et vous avez cessé vos études pendant 5 ans pour payer le lycée aux frères et sœurs?
Oui, une fois au supérieur, une fois à l'université, j'ai dû interrompre pendant 5 ans parce que il fallait pousser les uns et les autres. Il fallait fixer la barre au moins au bac. Ça a été...
Ah, Achille, on vous a perdu. Vous étiez en ligne avec nous, on vous a perdu. Mais... Oui. Mais alors, finalement, point négatif, point positif de cette immense responsabilité.
Bon, on a... Aujourd'hui, la chance, c'est que hier, il y a eu des incompréhensions. On essuie quelques injures parce que certains veulent s'affirmer un peu plus tôt.
Oui.
Certains ne comprennent toujours pas les décisions qu'on les impose.
Oui.
Mais aujourd'hui, j'en suis fier parce que petit à petit, ils deviennent des adultes et sont reconnaissants. Ils témoignent leur reconnaissance, s'excusent même de certains écarts d'il y a quelques années, des écarts qu'ils ne... il s'excuse.
Ouais. Est-ce qu'on vous a dit merci? Parce que Jocelyne, tout à l'heure, était assez... Finalement, avait du mal à chercher à quel moment on lui avait dit merci dans sa famille. Et vous?
Bon, disons que je n'attends pas tellement le merci. Aujourd'hui, je suis fier de cette autonomisation. C'est-à-dire qu'elles prennent mon parti. Elles ne disent pas forcément merci, mais dans les faits et gestes, on comprend qu'il y a une certaine reconnaissance. Elles sont reconnaissantes de cette discipline qui, hier, paraissait une discipline de fer, mais qui finalement s'est révélée porteuse de beaucoup de...
L'ambiance n'a pas dû être facile tous les jours, quand même. Hein. Et pour vous, et pour les petits frères et sœurs. Merci Achille de nous avoir appelé. Dimo est en ligne avec nous de Libreville au Gabon. Bonjour Dimo.
Bonjour.
Vous êtes l'aîné d'un frère et de 2 sœurs. Alors vous, la situation a été complètement différente. Ça ne vous a pas pesé?
Non. Et vraiment, le commentaire, le témoignage de Jocelyne me touche beaucoup. Mais moi, je vis le contraire.
Ah, c'est-à-dire que c'est les petits frères et sœurs qui vous ont assisté?
Voilà. Bon, je prends un cas précis. Et ils ont trouvé de l'emploi avant moi.
Oui.
Et financièrement, ils m'ont porté jusqu'au bout. Ce sont eux qui assumaient mes dépenses mensuelles. Et dans un autre cadre, ma mère a toujours été présente dans la fratrie. Parce que même si je suis l'aînée, elle m'a toujours accompagnée. Et c'est à partir de 18 ans qu'elle m'a fait connaître le rôle que je devais jouer.
C'est ça, un rôle traditionnel, le rôle de l'aîné dans la société africaine, mais elle a attendu finalement que vous soyez adulte pour que vous teniez ce rôle-là, c'est bien ça Dimo?
Voilà, c'est exactement ça, et même jusqu'à aujourd'hui, mon rôle d'aîné, non pas qu'il est limité, mais il est encadré dans la mesure où mes cadets ne pèsent pas sur moi.
Merci Dimo de nous avoir appelé. Alors tout de même, on peut se poser la question, à l'âge adulte finalement, est-ce que Gaëlle Henri Panabière, est-ce que ce rôle des aînés se poursuit à l'âge adulte et l'histoire de la fratrie va évidemment peser sur la façon dont on se comporte ensuite à l'âge adulte ?
Oui, oui. On a plusieurs situations. Alors pour les aînés, là je parle encore d'aînés au féminin, qui se sont beaucoup investis dans la scolarité ou les lectures de leurs cadets, qui expliquent voilà que quand un tel a une bonne note, elle est appelée au téléphone, elle reçoit des mails, on lui donne des nouvelles, des résultats scolaires. Voilà, c'est quelque chose qui est encore assez fort. Et c'est vrai qu'on a parlé de l'impact en termes de scolarité, mais on a également pu mesurer alors des effets très variables, mais intéressants à analyser. Sur sa propre envie de fonder une famille, une famille plus ou moins nombreuse.
Clémence Promsi et Soukena Idiop, j'aimerais que vous nous disiez, en tant que psychologue toutes les deux, quels conseils à retenir pour que tout le monde vive bien la situation. Isman, Soukena Idiop, il nous reste une minute pour vous.
Oui, eh bien en fait, je rejoins tout à fait ma collègue par rapport à la question du fait qu'il n'y avait pas de réalité qui était bonne ou mauvaise, qui avait juste la réalité. Et tout à fait, en fait, la question de la communication, du langage au sein de la famille, que tout le monde puisse exprimer son ressenti et surtout ses frustrations. La possibilité d'exprimer ses frustrations, je pense que c'est très important.
Oui, on l'a entendu avec des auditeurs qui probablement s'en expriment à l'âge adulte pour la première fois. Et là aussi, on se dit, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été dites. Clémence Promsi, alors là, pour les parents qui ont plusieurs enfants, une famille nombreuse, qu'est-ce que vous conseillez ? Comment s'organiser au quotidien pour que tout le monde le vive bien et que ses responsabilités, sans chercher à les gommer, parce que parfois on ne peut pas faire autrement que de faire confiance à l'aîné, mais que tout le monde le vive bien ?
Alors peut-être s'entourer un peu des voisins. Tout à l'heure on parlait de la densification dans les villes. Il y a moins de grands-parents, les mamans travaillent, mais il y a aussi des voisins qui ont les mêmes réalités que nous, qui sont dans les mêmes écoles. Donc on peut aussi se dire que lundi, mardi c'est la voisine et que jeudi, vendredi c'est nous et qu'on prend le petit voisin. Essayer de partager les réalités, ne pas hésiter à tout noter. Voilà, on pose sur le frigo un gros tableau lundi, mardi, mercredi, on voit qui fait quoi et on verra au moins si c'est équilibré, bien réparti. Et effectivement, comme disait Isman, Soukaina, vraiment écouter la souffrance de chacun. Et si on peut dire un petit mot à Jocelyne, il n'est jamais trop tard, Jocelyne, pour que vous fassiez entendre vos besoins, même si aujourd'hui vous êtes grande et que les petits frères sont grands, vous avez le droit de dire qu'aujourd'hui vous avez besoin qu'on fête votre anniversaire, qu'on vous écoute et qu'on vous entende. Voilà, ouais. Même si c'est tard, ça n'est pas trop tard pour que chacun soit entendu en fait.
C'est vrai que certains aînés aussi laissent penser qu'ils n'ont pas besoin d'aide, qu'ils s'en sont tellement bien sortis toute leur vie, que finalement on oublie
que fragiles.
Voilà, c'est et puis qu'ils peuvent être heureux qu'on s'occupe d'eux à leur tour. Merci en tout cas à vous toutes d'avoir été en ligne avec nous et merci à vous les voisins et les voisines de nous avoir livré vos histoires. Gaëlle Henri Panabière, donc sociologue de la famille. Clémence Promsi, psychologue, vous publiez d'ailleurs dans pas longtemps, Je ne veux pas... alors là, c'est sur le nom des enfants.
Quand ils ne veulent rien faire.
Exactement. L'ouvrage est à paraître chez Albin Michel. Comment s'en sortir avec des enfants qui disent toujours non. Et puis, merci à vous, Isman Soukaina Diop, chercheuse et psychologue à Dakar. Merci à toute l'équipe, Sigrid Azeroual, Arthur Tossou, Romain Dubrac, Didier Cherouze. Bien sûr, vous pouvez réécouter toutes nos émissions sur l'appli RFI Pure Radio, la rubrique émissions, ou nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur le site RFI.fr également. Demain, 7 milliards de voisins, on parlera des sports dans la rue, quand le macadam devient terrain de skate, de roller, de running. Les voisins, appelez-nous, racontez-nous surtout dès maintenant vos sports urbains préférés. Voilà, vous postez sur les réseaux sociaux.